Bienvenue aux conférences du Centre international d'évangélisation. Nous vous saluons dans le merveilleux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un réel plaisir pour nous aujourd'hui de partager l'excellente parole de la grâce avec chacun d'entre vous. Et nous voulons continuer dans la série de leadership. Nous sommes sous une sous-série qu'on appelle l'esprit d'excellence. Et nous avons vu la dernière fois que l'esprit d'excellence est un esprit de progrès. Aujourd'hui, nous allons voir les marques de l'esprit de l'excellence, les marques de la sagesse, de l'intelligence et de la connaissance sont celles qui distinguent l'esprit d'excellence. Car l'esprit d'excellence, nous avons dit, est un esprit de progrès, est un esprit où la vision est gardé et réalisé pas à pas. Alors, comment pouvons-nous parler de l'esprit d'excellence en relation avec la sagesse, l'intelligence et la connaissance ou la science appliquée? Nous allons voir que nous ne parlons pas dans le domaine purement naturel. Car nous avons dit que la sagesse, l'intelligence, la science appliquée, les sciences appliquées ou la connaissance sont des choses au niveau naturel. Ça, c'est la première dimension. Mais nous savons que la première dimension, le naturel, est couvé, est contrôlé par la dimension spirituelle. C'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Et c'est pourquoi beaucoup de gens, sur le plan naturel, ont la sagesse, l'intelligence et aussi la connaissance. Mais quand vous voyez leur vie pratique, leur vie quotidienne, vous posez la question, est-ce bien cet homme et ce grand diplômé qui agit de cette manière-là, est-ce réellement ce savant dont la vie est vraiment misérable et médiocre? Car il leur manque l'élément spirituel, l'élément fondamental qui peut leur donner la joie, la paix et qui peut leur donner la victoire quotidienne sur les événements, sur les épreuves, sur les circonstances et toutes les situations négatives. Aujourd'hui, alors, nous allons voir comment Dieu travaille-t-il. La question est importante. Les gens disent, ils croient que Dieu est un être impersonnel, un Dieu qui est loin, un Dieu qui ne se révèle pas aux gens. Et c'est pourquoi, et souvent les gens ne savent pas qu'ils voient. Ils ne savent pas que Dieu a une personnalité. Ils ne savent pas que de même qu'un homme a sa personnalité, le Dieu Tout-Puissant a sa personnalité divine. Et Dieu travaille. Et comment Dieu a créé les choses? Comment Dieu a-t-il travaillé? Regardons dans le livre des Proverbes, chapitre 3, et versets 19 et 20. Vous allez suivre cela sur votre écran. Vous allez voir apparaître trois mots essentiels. Trois mots essentiels qui seront dans ce passage de Proverbes 3, versets 19 et 20. Voilà ce que la Bible dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux et c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Donc, les trois éléments principaux qui marquent l'esprit d'excellence sont dans ce passage que nous venons de lire. Premier élément, la sagesse. Deuxième élément, l'intelligence. Et troisième marque de l'esprit d'excellence, la science appliquée, la connaissance. Il est important que nous découvrions comment Dieu travaille. Si nous voulons être des disciples de Christ, si nous voulons être des hommes et des femmes qui veulent marquer leur génération, qui veulent marquer et donc la vie sur cette terre-là, il est très important que nous apprenions à connaître comment Dieu agit, comment Dieu se manifeste. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous voulons voir avec vous, donc, comment Dieu travaille-t-il. Donc, dans ce passage-là, l'accent est mis sur trois éléments principaux. La sagesse, l'intelligence et la science. Pour comprendre ces trois éléments, je vais vous amener dans un autre passage qui va nous dire exactement comment, qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, c'est la manière que Dieu a de procéder. C'est-à-dire la manière que Dieu a pour travailler de façon pratique. Et l'intelligence lui permet de comprendre. L'intelligence permet de comprendre les situations et la science ou la connaissance d'en faire l'application pratique. Alors, quand nous regardons attentivement comment Dieu a travaillé, donc nous voyons qu'il a fondé la terre. C'est-à-dire, il a réalisé la terre. Il a formé la terre par sa sagesse. Et il a affermi les cieux et la terre. Il les a affermis par son intelligence. Et c'est par sa connaissance que Dieu a permis aux abîmes de s'ouvrir et que les nuages distillent la pluie ou la rosée. Vous voyez là les trois dimensions que les hommes ont sur la terre. Alors, nous allons voir aussi que Dieu le Père, dans sa grâce, a travaillé de cette manière. Est-ce qu'on trouve ces éléments caractéristiques dans la vie de Jésus-Christ? Nous allons aller pas à pas, car nous allons quitter la divinité et nous allons descendre dans l'humanité. Donc, nous avons vu Dieu le Père là-haut, créateur des cieux et de la terre. Comment il a créé les cieux, comment il a créé la terre et comment il a manifesté donc les choses telles que la pluie pour venir sur la terre. Maintenant, regardons donc dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Concernant Jésus-Christ, le Dieu manifesté en chair, l'homme, donc, qui avait les deux dimensions, la dimension naturelle et la dimension surnaturelle. Donc, Luc chapitre 2 et au verset 42. Dans ce passage, il est dit que lorsque Jésus avait déjà 12 ans, il était âgé de 12 ans, un jour, ses parents adoptifs, Marie et Joseph, l'ont amené donc au temple à Jérusalem, comme la loi juive le demandait, ont amené Jésus-Christ donc pour que réellement il puisse faire une offrande donc à Dieu dans le tabernacle. Et quand ils sont allés donc à Jérusalem, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que 3 jours après, donc quand ils voulaient retourner, ils n'ont pas vu Jésus. La mère Marie et Joseph se sont inquiétés de ne pas voir l'enfant Jésus avec eux. Ils ont demandé à leurs parents, ils ont demandé à leurs amis, ils ont demandé aux habitants de Nazareth avec qui ils étaient venus et qui a vu Jésus. Mais la Bible dit qu'aucun d'eux ne l'avait vu. Mais ils sont retournés à Jérusalem. Ils ont commencé à fouiller partout. Et la Bible dit, comme on vient de le dire au verset 42 maintenant, au bout de 46 du moins, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Verset 47, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. À 12 ans, Jésus émerveillait les docteurs, émerveillait les chefs religieux, émerveillait par la connaissance, l'intelligence et la sagesse surnaturelle qui était dans cet enfant de 12 ans. C'est pourquoi nous avons commencé par le Père là-haut, le Dieu créateur des cieux et de la terre. La Bible dit qu'il travaille par la sagesse, l'intelligence et la science. Et nous avons vu ce Dieu manifesté dans la chair, devenu homme. Donc on est en train de descendre tout doucement pour comprendre comment on doit opérer aussi sur la terre des hommes. Comment l'esprit d'excellence peut se manifester lorsque nous sommes un être humain sur la terre. Donc déjà, nous voyons ici Dieu manifesté en chair sous la forme d'un homme appelé Jésus-Christ qui avait les deux dimensions, le naturel et le surnaturel. Et cet enfant déjà à l'âge de 12 ans émerveillait tous les scientifiques, tous les chefs religieux, les docteurs, les savants. par son intelligence, sa sagesse et la connaissance qu'il avait, donc les choses de la terre, des choses célestes. Tout le monde était émerveillé en entendant cet enfant de 12 ans. Pourquoi? Ésaïe 11 va nous dire le pourquoi. Ésaïe chapitre 11, si vous voulez bien, au verset 1 et 2. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 11, verset 1 et 2, en comment Jésus a-t-il pu exercer la sagesse, l'intelligence et la science, donc dans sa vie sur cette terre-là. Ésaïe 11, verset donc 1 et 2. Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Maintenant, verset 2, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu, reposera sur cet enfant-là. Donc, la Bible nous montre, 800 ans avant que Christ ne vienne sur la terre, ce que sera cet enfant-là. Quel genre de marque, quel esprit d'excellence il aura. Et cet esprit d'excellence sera marqué par, donc, plusieurs faces, plusieurs marques, plusieurs caractéristiques de l'Esprit de Dieu sur lui. Et, premier élément, quand l'Esprit de Dieu repose sur un homme, sur cette terre-là, à travers l'exemple de Jésus-Christ, il était devenu homme sur la terre, habité par l'Esprit de Dieu. Et maintenant, comment cet Esprit va-t-il se manifester? Écoutez, vous qui êtes là et qui suivez cette émission. Premièrement, quand l'Esprit de Dieu vient sur un homme, qu'est-ce qu'on constate? Première marque, l'Esprit de sagesse. La sagesse se manifeste. La sagesse commence à se manifester. Vous entendez? La sagesse, la compréhension, c'est-à-dire la manière, votre manière de travailler change. Là où les gens passent 3 heures, 4 heures à faire un travail, vous, en quelques 30 minutes, vous avez fini. Parce qu'il y a une sagesse qui repose sur vous de façon manifeste. Et malheureusement, le peuple chrétien n'a pas saisi ces marques, ces caractéristiques que chacun devait avoir par l'Esprit Saint qui est en chacun d'entre nous. Parce que là où je vous ai dit que le christianisme n'est pas une religion, le christianisme est marqué par le surnaturel, par le spirituel. Et c'est pourquoi quiconque est né de nouveau dans le royaume de Dieu, quiconque est devenu chrétien né de nouveau, je n'ai pas dit chrétien par conversion traditionnelle, je n'ai pas dit chrétien par un homme qui va à l'église, qu'il est né dans une religion chrétienne, qu'il est né dans une famille chrétienne. Je ne parle pas de ce christianisme traditionnel qui, au contraire, fait plus de mal à Dieu que du bien. Je parle selon les critères de la Bible. La Bible dit par la bouche de Jésus-Christ dans Jean 3, verset 1 jusqu'au verset 6. Jésus parlait à un homme appelé Nicodème. Et cet homme-là, qui était un docteur d'Israël, ne comprenait pas les choses du royaume de Dieu. Parce qu'il marchait, il travaillait, il vivait simplement dans le naturel. C'est comme beaucoup d'hommes aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui vivent dans le naturel, qui opèrent dans le naturel. Ils ne savent pas que le naturel est contrôlé par la deuxième dimension qu'on appelle le spirituel et le surnaturel. La Bible dit que le naturel, la matière que nous voyons vient du spirituel, vient de ce qui n'est pas visible par les yeux, car le spirituel est aussi réel que le matériel. Donc les gens ne savent pas cela. Quand on parle de spirituel, les gens croient qu'on parle de choses bizarres, qu'on parle de choses illusoires. Non! Le monde spirituel est plus réel que le monde naturel, le monde physique qui vous entoure. Vous entendez? Le monde naturel est contrôlé par la dimension du monde spirituel. Et quand nous comprenons cela, nous pouvons aller de l'avant. Donc, lorsque l'Esprit Saint est venu sur Jésus, comme le dit Ésaïe 11 ici, première caractéristique que les gens ont vue, la sagesse. La sagesse. Sa manière de parler. Quand il parlait, le peuple s'écriait, jamais un homme n'a parlé comme lui-là. Il avait une sagesse extraordinaire. Les gens étaient émerveillés devant ses proverbes, devant ses paraboles, parce que la sagesse de Dieu était en lui. Mais ce n'est pas fini, esprit de sagesse, mais aussi d'intelligence. Vous voyez, le deuxième élément. Là où est la sagesse, vous avez besoin d'une intelligence. leur besoin de la compréhension. Car la sagesse, c'est la manière de faire. Et l'intelligence vous permet de comprendre les situations. Vous permet de comprendre les problèmes. Vous permet de savoir, et ce problème-là, voilà ses tenants et ses aboutissants. Mais c'est la sagesse maintenant qui va vous permettre d'opérer. Ce n'est pas fini. Il est dit ensuite, lorsque l'esprit d'intelligence est là, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de conseil et de force va se manifester. Et l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Vous voyez les trois éléments avec Jésus aussi. Le Père, nous avons dit dans Proverbe 3, nous avons dit que le Père opère. Le Père travaille par la sagesse, l'intelligence et la science ou la connaissance. Et nous voyons ici, pour que Jésus opère sur cette terre-là, l'Esprit Saint, l'Esprit du Père est venu sur lui. Et alors, l'Esprit du Père lui a donné la sagesse, l'intelligence, la connaissance. En plus de cela, il a eu le conseil et la puissance. Il a eu aussi la crainte de l'Éternel dans sa vie, ce qu'on appelle les sept esprits de Dieu dans Apocalypse, ou les sept aspects de l'Esprit Saint dans la vie d'un homme sur la terre. Alors, si vous voulez opérer dans l'excellence, si vous voulez opérer de façon à marquer votre génération, il faut que cet Esprit Saint de Dieu, cet esprit de sagesse, cet esprit d'intelligence se manifeste littéralement, de façon pratique dans votre vie. Sinon, vous serez un chrétien dans la défaite. Vous serez un homme qui va passer inaperçu. Vous serez un simple numéro matricule. Vous n'allez pas affecter votre génération. Les gens ne tireront rien de bon de vous. Vous serez quelqu'un qui embarrasse les gens. Vous serez quelqu'un qui dérange les gens. Vous serez quelqu'un qui n'apporte pas, qui n'est pas productif dans sa vie. Alors, c'est pourquoi ces conférences sur le leadership. Alors, nous avons vu que le Père avait les trois caractéristiques. Nous avons vu que Jésus-Christ, le Fils, avec les trois caractéristiques, nous allons maintenant voir comment un vrai disciple de Christ travaille-t-il, doit-il travailler sur cette terre-là. Ça, c'est important. Comment un vrai disciple de Christ, je dis un vrai disciple de Christ, doit-il travailler sur cette terre-là. Parce que le vrai disciple a ses marques, a ses caractéristiques. Jésus l'a dit, que le vrai disciple, c'est celui qui demeure dans sa parole, dans Jean 8, versets 31 à 32. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Mais si vous négligez la parole de Dieu, si la parole de Dieu n'est pas une référence, si c'est votre tradition qui annule la parole de Dieu, toute votre vie chrétienne est basée sur la tradition de l'Église. Ça ne peut pas aller. La Bible dit que la tradition de l'Église annule malheureusement la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle ne passera point. Jésus l'a insisté dessus. Il dit, les cieux passeront. Il a dit, la terre passera. Mais ma parole ne passera point. Le canon des Écritures a été déjà scellé. On ne peut pas changer. La tradition n'a pas droit de citer lorsque la parole de Dieu est mise en première place. La parole de Dieu est prioritaire pour le changement, pour la transformation de la vie d'un homme sur la terre. La tradition annule la puissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, frères et sœurs, vous revenez à la parole de Dieu. Donc la Bible dit ici, la Bible nous montre qu'un vrai disciple de Christ, c'est celui qui demeure dans la parole. C'est Jésus qui l'a dit à ceux qui ont cru en lui, aux Juifs qui ont cru en lui. Et il dit encore, toujours dans ce même passage-là, et que si vous êtes vraiment un disciple, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la vérité va opérer dans votre vie. La vérité va agir dans votre vie, votre situation morale, spirituelle, familiale. La vérité de Dieu va vous propulser, va vous élever. Alors, c'est cela que Jésus a dit à ceux qui ont cru en lui dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 8, versets 31, 32 et suivants. Maintenant, comment un vrai disciple de Christ travaille-t-il sur cette terre-là? Quelles sont les caractéristiques de ce disciple-là? Allons dans Proverbe 24, on va voir les trois marques aussi du vrai disciple. Proverbe chapitre 24, et regardons, là vous allez comprendre comment le vrai disciple de Christ aussi travaille sur cette terre-là. Voici ce que la Bible dit, Proverbe 24, Proverbe 24, et au verset 3 et 4. Verset 3 et 4. Il est écrit, c'est par la sagesse. Vous entendez encore les trois éléments. Regardez sur l'écran très bien, vous allez voir ce qui est écrit. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, une maison. Et par l'intelligence que cette maison s'affermit. Et c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Vous entendez? Dieu travaille par la sagesse, l'intelligence et la science ou la connaissance. Jésus-Christ, le Dieu manifesté en chair, venu sur cette terre-là, était rempli de sagesse, d'intelligence et de science, de connaissance. Maintenant, il se tourne vers nous. La Bible se tourne vers vous et moi. Il dit, si vous voulez affecter votre génération sur cette terre, vous devez avoir ces trois marques. Sans ces trois marques-là, l'esprit d'excellence vous fera défaut. L'esprit d'excellence ne va pas opérer en vous. Vous allez être dans un esprit de, vraiment de passivité, un esprit de médiocrité, un esprit vraiment de quelque chose où vous ne pourrez pas être quelqu'un qui sera en tout cas vu par les autres. Ces trois éléments-là, sagesse, intelligence et science. Regardons maintenant comment cela opère. Premièrement, Dieu dit que pour bâtir votre maison, votre vie, votre famille, votre travail, premièrement, il vous faut la sagesse. C'est par la sagesse que la maison s'élève, qu'elle est bâtie. Vous voyez pourquoi beaucoup de familles chrétiennes et des familles non chrétiennes ne sont pas bâties? Pourquoi les gens se séparent et divorcent? Pourquoi les gens qui ont juré de s'aimer jusqu'à la mort, 3 ans de mariage, ils divorcent? Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé que même le mariage est un élément naturel. Toutes ces choses, les gens ne savent pas que le mariage vient de Dieu. Et que pour que le mariage réussisse parfaitement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mariés, ils n'ont pas divorcé, mais ils se tolèrent. Ils sont comme grands frères et petites sœurs. Ils se tolèrent simplement dans la maison. Quand le mari vient à la maison, la femme est assise, elle le regarde, il passe à gauche, il va à droite, il prend ses habits, il parle aux enfants, il ne parle pas à sa femme, et la femme est assise là. Ça, ce n'est pas un mariage. Bien qu'il n'y ait pas de divorce, ça, ce n'est pas un mariage. Je ne sais pas comment on l'appelle, en tout cas, ce n'est pas un mariage. C'est grand frère et petite sœur dans la même maison, mais qui ne se parlent pas. Pourquoi? Il manque l'élément de sagesse. Il manque l'élément de sagesse. C'est par la sagesse, le comment, comme dit l'anglais, le how, le comment, comment élever sa maison. Le père doit avoir ça. La mère doit avoir cette sagesse-là. Et ils vont communiquer cette sagesse à chacun des enfants. Ça, c'est le premier élément. Alors, si la sagesse est là, votre maison, malgré les difficultés, malgré les persécutions, malgré la jalousie des autres, va s'élever. Personne ne peut empêcher la sagesse de se manifester. Jamais. Là où il y a la sagesse, personne ne peut étouffer la sagesse. La sagesse trouvera un moyen pour s'en sortir. La sagesse est une puissance, est une clé extraordinaire que nous allons voir tout à l'heure là. Que Dieu donne à un homme, à une femme, pour bâtir sa vie, pour bâtir sa famille, pour bâtir son foyer, pour bâtir son travail. C'est par la sagesse qu'une maison, qu'un travail, qu'un ministère s'élève. C'est par la sagesse que le monde aujourd'hui peut aller de l'avant. Mais malheureusement, si vous regardez le monde, s'il y avait la sagesse, vous croyez que s'il y avait la sagesse chez tant d'hommes qui dirigent les nations, nous serons encore dans des problèmes? Réfléchissez. Les gens sont des intellectuels, il y a des spécialistes, il y a des experts en tout. Il y a des experts en monnaie, il y a des experts en sciences biologiques, il y a des experts en santé, il y a des experts en santé animale, santé végétale, santé humaine. Il y a des experts en tout. Mais le problème, c'est qu'il manque, il y a peu de gens qui ont la sagesse. Réfléchissez. La sagesse va faire que les gens vont bâtir ensemble, main dans la main, dans l'unité. Pas de division. La sagesse apporte toujours l'unité. C'est le ciment de l'unité. Et l'Église, malheureusement, l'Église de Christ, même manque de sagesse. C'est pourquoi il y a des batailles rangées dans l'église de Christ. La sagesse, là où elle est, elle apporte l'unité. Parce qu'elle permet de travailler comme Dieu travaille. Deuxièmement, lorsque la maison s'élève, elle, si la maison est élevée, et qu'elle est, elle est mal élevée, elle va se couler. C'est pourquoi, là où vous voyez la sagesse, il est dit ici, c'est par l'intelligence que cette maison s'affermit. L'intelligence, c'est la compréhension. Comprendre comment construire une maison. La sagesse, c'est le comment. L'intelligence vous permet de savoir comment doser. Comprendre qu'il faut du ciment ici, qu'il faut du fer là, qu'il faut des fers de 20, de 30 ici. Ça, c'est l'intelligence. Tu comprends ça. Et la maison est affermie. Elle est affermie. Elle est affermie. Elle s'accroît, elle grandit. Et quand la maison est finie, elle est élevée maintenant. La maison est affermie. Il y a un élément qui manque, c'est que les chambres sont vides. Une belle villa. La meilleure des villas que vous avez construites. Le meilleur des hôtels que vous avez construits. Sans lit, sans armoire, sans, les cuisinières. Toutes ces choses-là. S'il n'y a pas tout cela, votre maison est une maison vide. Elle n'a pas d'importance. C'est pourquoi le troisième élément est important dans votre vie. C'est la science. L'esprit d'excellence, il dit la science ou la connaissance. La science pratique ou la connaissance. Et qu'est-ce que cette science l'a fait? Il dit par la science que les chambres de votre maison se remplissent de quoi? De tous les biens précieux et agréables. Tous les biens précieux et agréables. Bah, je parle maintenant, il y a plein de chrétiens qui ont les maisons vides. Il n'y a aucun bien précieux chez eux. Il y a plein de gens qui regardent l'émission. Qui ont un gros cerveau, un gros quotient intellectuel, fort, premier de classe, excellent, prix d'excellence partout. Ils ont prix d'excellence en maths, prix d'excellence en physique-chimie, prix d'excellence en économie, prix d'excellence en droit international, prix d'excellence en droit constitutionnel, prix d'excellence en tout, sauf pour bâtir leur maison. Le seul prix d'excellence qu'ils n'ont pas, c'est dans leur famille. C'est dommage, hein? Le seul prix d'excellence qui leur manque, qui leur permet d'utiliser la sagesse, l'intelligence et la science, c'est dans leur maison. Alors, si vous avez l'échec dans la maison, être prévu au dehors, à quoi ça vous sert? À quoi ça sert que les gens vous applaudissent au dehors, que dans votre maison, votre femme et vos enfants sont dans la défaite totalement, sont dans la tristesse. Pleure. Pleure. Il n'y a que des larmes. Il n'y a que des angoisses. À quoi ça vous sert? C'est pourquoi l'esprit d'excellence demande que la sagesse, l'intelligence et la connaissance ou la science pratique se manifestent. Et alors votre maison sera remplie de biens précieux. Votre maison sera remplie de tout ce dont vous avez besoin. Rien ne manque au juste. La Bible dit, rien ne manque au juste. Les biens précieux, c'est l'entente, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la connaissance de Dieu qui amène ces choses-là. C'est la connaissance de l'amour de Dieu qui amène que votre maison soit remplie de ces biens précieux, de ces biens impérissables qui valent mieux que l'or et l'argent. Vous entendez? C'est ça l'esprit d'excellence. Ce sont les marques de l'esprit d'excellence. Regardons encore, et dans 1 Corinthiens 1, le chrétien, le vrai disciple de Christ, il est marqué par quoi? Quelles sont les marques? Et nous avons vu les trois éléments, mais dans 1 Corinthiens 1, versets 23 et 24, il est écrit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les juifs et folie pour les païens. Mais la puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Voyez bien. Et verset 30, il est dit, or c'est par Christ que vous êtes, c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Voyez, le vrai disciple de Christ a normalement la sagesse. En lui, Parce que Dieu lui donne la sagesse par Christ Jésus. Il est marqué par la sagesse. Mais quand on regarde beaucoup de chrétiens, on se demande, mais quelle sorte de sagesse ils ont? Les actes qu'ils posent, les paroles qu'ils prononcent, les attitudes qu'ils ont dans cette vie-là, vous demandez si même ils sont intelligents naturellement, à plus forte raison spirituellement. Même l'intelligence naturelle, là, on ne se demande pas s'ils ont ça. Parce que la vie chrétienne, ils pensent une vie comme cela, les pieds en l'air, c'est-à-dire qu'on est comme des pigeons qui volent à gauche, à droite. Non! La vie chrétienne, on a les deux pieds solides sur la terre. Mais on vit dans le surnaturel, dans le spirituel de Dieu. La sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu est une marque pour notre vie. La sagesse de Dieu se manifeste puissamment. Et l'intelligence et la connaissance de Dieu se manifestent puissamment dans notre vie. Et nous allons le voir avec un jeune homme appelé Daniel. Dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 2. Ce jeune homme-là était un disciple du grand Dieu. Regardons sa vie, Daniel chapitre 2. Et regardons ce que Daniel vivait. Daniel était un jeune homme qui était esclave à Babylone, chez Nebuchadnezzar. Mais malgré sa situation qui semblait être vraiment lamentable, médiocre aux yeux des hommes, mais Daniel opérait dans la sagesse et l'intelligence. À tel point que lorsque un jour, le roi Nebuchadnezzar a appelé tous les jeunes gens de Babylone et tous les jeunes, la jeunesse, pour venir, pour qu'on regarde, on teste leur intelligence, la Bible dit dans Daniel 2, verset 20, quand Daniel a commencé à prier, quand Daniel a prié, il prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Vous entendez? Dieu est celui qui donne la sagesse, la science et l'intelligence. Vous entendez? Ça, c'est important. C'est pourquoi au verset 23, Daniel avait besoin chaque fois de cette sagesse-là pour opérer, pour montrer aux magiciens de Babylone qui ne sont rien. Les magiciens de Babylone, quand le roi Nebuchadnezzar avait des songes, avait des rêves, il a appelé tous ces magiciens, ces chambellans, il a appelé tous ces grigrimans, tous ces féticheurs. Ils sont venus, ils ont parlé, ils ont fait tout, mais ils n'ont pas pu découvrir la sagesse, et du moins c'est le rêve et le sens du rêve du grand roi Nebuchadnezzar. Quand on a appelé ce jeune homme-là, qui était rempli de sagesse, voilà sa prière. Il a dit, au verset 23, « Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force. Tu m'as donné la sagesse pour révéler les secrets du roi. » Là où est la sagesse, les secrets des rois sont dévoilés. Là où est la sagesse, rien n'est caché. Un homme sage, je ne parle pas de la sagesse des cheveux blancs, je ne parle pas de la sagesse parce qu'on a vécu sur cette terre-là 75 ans, 80 ans. Ça, c'est la sagesse naturelle. Et parfois, elle n'opère pas. Elle n'a pas permis. C'est une sagesse qui est acquise après 70 ans d'échec. C'est après maintenant qu'on dit qu'il est sage. Non, la sagesse divine, la sagesse que Dieu donne, peut être dans un enfant de 11 ans, de 12 ans, comme Jésus-Christ, peut être dans un enfant de 15 ans, comme Samuel, et comme Daniel et les autres. C'est de cette sagesse dont nous avons besoin pour que nous puissions marcher dans l'esprit d'excellence, pour que nous puissions cultiver l'esprit d'excellence. Sans cela, l'excellence sera quelque chose de très difficile à atteindre par la vie de beaucoup d'entre nous. Et nous quitterons la terre sans avoir vécu dans l'excellence. Et c'est malheureux. Oui, dans le livre de Timothée, deuxième livre de Timothée, que Paul a écrit à Timothée, ce jeune homme-là, qui aussi opérait dans la défaite, qui opérait dans la médiocrité, qui opérait dans la peur, dans la timidité. Alors, la Bible va nous montrer ici que lorsque Timothée, Paul a écrit à Timothée, 2 Timothée 1, versets 6 à 7, Paul dit ceci. Il dit, mais c'est pourquoi, jeune homme, Timothée, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous entendez? Chrétien, vous comprenez? C'est dommage. C'est dommage. Quand j'étais converti, écoutez-moi, quand j'étais converti et que j'étais rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté beaucoup de choses qui ont changé en moi. Ma mémoire a totalement changé. Mon intelligence a totalement changé. Et j'ai commencé à avoir une sagesse. À tel point que le pasteur était étonné. Et que les anciens, ceux qui étaient convertis avant moi, 10 ans, 15 ans, étaient étonnés. Parce qu'ils ont vu dans ce nouveau converti en Christ que j'étais. Ils ont vu dans ce jeune homme que j'étais à l'époque, donc en 1973. Ils ont vu une réalité de l'esprit de sagesse, d'intelligence et de connaissance. Ils ont vu ma vie exploser spirituellement. Ils ont vu la grâce de Dieu reposer sur moi. C'est pourquoi je vous parle sérieusement aujourd'hui. L'esprit de sagesse est ce dont les mamans ont besoin pour diriger leur famille. Vous avez une famille de 8 enfants. Vous avez une famille de 7 enfants, 5 enfants. Maman, papa, comment vous allez diriger cette famille-là sans l'esprit de sagesse? Vous allez condamner certains, vous allez élever d'autres, vous allez critiquer certains, vous allez diffamer d'autres. Et voilà, vous avez vous-même, vous êtes l'auteur de la division de votre famille. Et c'est pourquoi beaucoup d'intellectuels et qui regardent cette émission-là savent de quoi je parle. Parce que regardez, vous savez faire des barrages. Vous êtes un ingénieur en génie civil. Vous êtes un ingénieur agronome. Mais pourquoi vous n'êtes pas ingénieur dans votre famille? C'est ça. Vous êtes docteur en médecine. Vous êtes chirurgien. Pourquoi vous n'êtes pas chirurgien dans votre famille? C'est le problème. Parce que le quotient intellectuel n'a rien à voir avec la sagesse divine. Ce dont je parle, c'est ce que Dieu inculque, Dieu met en nous. Dieu, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu qui nous permet d'opérer dans la victoire. Donc Paul dit à Timothée, il n'est pas bon qu'un jeune homme soit dans la timidité. Car Dieu ne donne pas la timidité. La timidité est un esprit. Et les gens, quand on dit que les gens disent, oui, moi je suis timide. Mais ils ne savent pas qu'ils se condamnent. Car la timidité est un mauvais esprit. Est un mauvais esprit. Est un esprit qui domine la personne, qui empêche la personne de s'épanouir et qui tient la personne esclave de la pensée d'autrui. Donc, débarrassez-vous de cet esprit mauvais qui est l'esprit de timidité. Dieu n'a pas donné à un chrétien un esprit de timidité. Dieu n'a même pas donné aux hommes un esprit de timidité. Mais il a donné un esprit d'amour, un esprit de force et un esprit de sagesse avec lequel vous allez opérer dans ce monde-là. Alors, c'est important que nous comprenions. Nous avons vu, Dieu travaille par la sagesse, l'intelligence et la science. Nous avons vu que Jésus-Christ était marqué par la sagesse, l'intelligence et la science. Nous avons vu d'autres personnes, Daniel, Paul, Timothée. Nous avons vu que nous, Dieu aussi nous appelle à bâtir nos maisons par la sagesse, à les affermir par l'intelligence et à remplir les chambres par la science ou la connaissance. Mais nous allons voir maintenant, pour aller vers la fin de cette émission, nous allons voir lorsque les résultats de la sagesse dans la vie d'un disciple de Christ. Quand la sagesse est là, qu'est-ce qu'on peut voir? Quels sont les signes? Quels sont les résultats? Voilà, de la sagesse dans la vie d'un homme. Pour cela, nous allons prendre l'exemple de Salomon dans le livre de Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 1, verset 10. Dans le deuxième livre de Chroniques, on nous montre la vie de Salomon, le fils de David. Et quand nous regardons la vie de cet homme-là, on va constater quelque chose de très important. 2 Chroniques, chapitre 1 et au verset 10. Salomon était parti pour prier. Et quand il est parti prier, la Bible dit que dans son temps de prière, ensuite Salomon s'est endormi. Et la Bible dit que Dieu est venu parler à Salomon dans son sommeil. Écoutez, c'est pour quand on va attaquer les rêves et les visions, vous allez comprendre. N'écoutez pas les gens qui essaient d'interpréter les rêves à gauche, à droite, qui vous créent des problèmes. Verset 10. Quand Dieu a parlé à Salomon dans son rêve, Salomon a fait une prière que vous et moi, vous qui suivez cette émission, vous devez faire cette prière-là. Qu'est-ce que Salomon a demandé à Dieu? Dans le rêve de Salomon, Salomon a vu beaucoup de choses. Il a vu la richesse. Il a vu plusieurs portes, vous entendez? Plusieurs portes. La porte de la richesse, la porte de la gloire, la porte de la mort de ses ennemis, la porte, ouais, toutes sortes de portes qui brillaient, sur lesquelles étaient déposées des belles clés, des clés formidables. Et vers la fin, Salomon avait une porte. Une porte qui semble être une porte vraiment pas très belle aux yeux des hommes. Et qui a une clé peut-être un peu grotesque, une clé vraiment qui n'est pas du tout bien. Et Dieu lui dit, choisis. Salomon a regardé, et qu'est-ce que Salomon a demandé? La Bible dit, au verset 10, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple dont tu viens de faire roi. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Regardez, si les grands de ce monde-là faisaient cette prière-là, ce serait formidable. Je répète encore, si les grands de ce monde-là, partout où l'émission va passer, partout dans tous les pays où l'émission va passer, si les grands de ce monde-là faisaient cette prière-là, ce serait la prière la plus formidable qui puisse être faite par un homme d'État ou une femme d'État. Accorde-moi, il demande à Dieu. Il a vu la richesse, il a vu la gloire, il a vu la bonne réputation, il a vu même la mort de ses ennemis. Salomon n'a pas demandé tout ça. Salomon sait qu'il y a une clé, la clé des clés, la clé qui ouvre toutes les portes. C'est la clé de la sagesse, de l'intelligence et de la science. Quand vous avez la clé de la sagesse, l'intelligence, c'est un trousseau. Quand la clé de la sagesse est là, l'intelligence et la science suivent. Et Salomon a dit, Dieu, je suis un roi. Je suis un homme d'État. Et il y a le peuple. Il y a toutes sortes de caractères dans ce peuple-là. Il y a des gens bons. Il y a des gens méchants. Il y a des pauvres. Il y a des riches. Il y a des intellectuels, il y a des analphabètes qui veulent dominer, qui veulent contrôler. Alors, ce peuple si nombreux et si diversifié là, qui peut diriger ce peuple là s'il n'a pas la sagesse et l'intelligence? Partout, vous qui êtes dans, vous qui avez des communautés, vous qui dirigez des entreprises, vous qui êtes, je ne sais pas moi, maire de cité, maire de ville, maire d'arrondissement, pourquoi? Vous qui êtes député, vous qui êtes ministre, je ne sais pas, vous qui avez une parcelle d'autorité, pourquoi ne faites-vous pas, pourquoi ne laissez-vous pas de côté votre fierté, votre orgueil, et demandez à Dieu, Seigneur Dieu, donne-moi la sagesse, l'intelligence et la science qui viennent de toi. Oui, vous pouvez avoir déjà peut-être l'intelligence intellectuelle. Je peux, si je m'abuse, je fais une répétition. Mais ce n'est pas ça. Dieu, donne-moi, Seigneur, la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Alors, la Bible dit, Dieu dit à Salomon, verset 11, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, écoutez maintenant, voilà le secret que les chrétiens ne comprennent pas. Voilà le vrai secret. Puisque tu ne demandes pas des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre, en plus, des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Si vous lisez la Bible, il dit que Salomon a rendu l'argent et l'or en son temps comme des cailloux. C'est l'homme qui avait une sagesse extraordinaire. Les gens quittaient le monde entier venaient voir Salomon. Ils ont été émerveillés devant la connaissance de cet homme-là. Mais cette connaissance n'est pas livresque. Ce n'est pas une connaissance de l'université. Ce n'est pas une connaissance des grandes écoles. C'était la connaissance qui vient du Dieu, du grand Dieu, du Dieu tout-puissant, du Dieu de gloire. C'est cette connaissance que Dieu a donnée à Salomon. Et c'est cette connaissance dont nous avons besoin aujourd'hui pour diriger, pour conduire nos églises, pour conduire nos familles, pour conduire nos sociétés, pour conduire nos entreprises. C'est cette sagesse-là dont nous avons besoin. Et cette sagesse-là, si elle est donnée, les nations sont heureuses. Les nations sont bénies. Les nations progressent. Vous imaginez que dans un pays, toute une assemblée des députés demande la sagesse, tous les députés demandent la sagesse pour diriger, parce qu'ils représentent le peuple, ils demandent la sagesse et l'intelligence, la science, la connaissance pour diriger ce peuple-là. Dieu va dire, mais quel député merveilleux. Des ministres qui s'asseyent, qui disent, mais Seigneur, oui, Dieu, tu m'as fait grâce, je suis ministre de mon pays. Je demande la sagesse dans tel département. Dans le département, je ne sais pas, de l'éducation. Donne-moi la sagesse pour faire des programmes, pour affecter la vie de ces enfants-là. Non! Les gens ne veulent pas ça. C'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Voilà les prières que les gens doivent faire. Donne-moi la sagesse, l'intelligence et la sagesse. Et la science. Vous allez non seulement marquer dans votre ministère, dans votre mandat de député, de maire, vous allez marquer les populations. Et que les populations diront, nous voulons cet homme-là, nous voulons cette femme-là, nous voulons cet homme-là. Oui, c'est cela. L'esprit d'excellence. C'est ça l'esprit d'excellence. Vous voyez? Et regardons les différentes marques de la sagesse qu'on constate. Proverbe 3, quelles sont, quand la sagesse est là, qu'est-ce qu'elle donne? On va lire ces passages-là, parce qu'ils n'ont plus beaucoup de temps. Proverbe 3, verset 13 à 18, regardez ce que la sagesse donne. Proverbe 3, verset 13 à 18, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain que la sagesse procure est préférable à celui de l'argent. Vous voyez bien? Le bénéfice de la sagesse est plus grand que le bénéfice de l'argent. L'argent peut vous faire acheter des choses, mais l'argent ne vous ouvre pas toutes les portes. Ce n'est pas vrai. Écoutez, l'argent vous donne un lit, mais ne vous donne pas le sommeil. Vous le savez, non? L'argent vous donne les médicaments, mais ne peut pas vous donner la bonne santé. L'argent donne aux femmes des produits de beauté, mais ne donne pas la beauté. Hé, hey, madame, l'argent vous donne des produits de beauté. Vous avez des produits de beauté, mais vous n'êtes pas belle. L'argent peut vous donner tout. Beaucoup de choses. Mais, vous allez voir, l'argent peut donner des bons livres à un enfant dont le père est très riche. Des livres. Mais l'enfant, l'argent ne donne pas l'intelligence. Vous entendez? Et c'est pourquoi il dit que la sagesse, son gain est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. La sagesse est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans la droite de la sagesse, et regardez, on personnifie la sagesse. Dans la droite de la sagesse, il y a une longue vie. Vous qui voulez longue vie là, chaque 1er janvier, vous dites longue vie, bonne année, longue vie. Non, ayez la sagesse et vous aurez une longue vie. Dans sa gauche, il y a la richesse et la gloire. Une richesse et une gloire sainte. Pas traficotée, pas manipulée. Dans la droite de la sagesse, quand la sagesse est là, il y a la longue vie. Dans sa gauche, la gloire et la richesse. Vous entendez? La gloire et une richesse qui est obtenue normalement, sainement, honnêtement, avec intégrité. Ces voies sont des voies agréables. Et tous ces sentiers sont paisibles. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. C'est un arbre de vie. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Oui. Ceux qui la possèdent sont heureux. Verset 22 à 26. Elle, la sagesse et la science seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors, regarde ce que la sagesse donne. Tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, si tu as la sagesse, tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Tu ne redoutes ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Voici ce que la sagesse donne. C'est pourquoi je dors cool. Je dors cool. La sagesse donne ça. Pas besoin d'avoir des gens qui, à gauche, à droite, veillent sur toi. Pas besoin de mettre des fils noirs, des fils bleus, des poudres dans ma maison. Non, pas besoin. La sagesse donne tout ça là. La sagesse de Dieu donne ces choses-là. Proverbe 4, verset 7. Qu'est-ce que la sagesse donne encore? 4, 7. Voici le commencement de la sagesse. La sagesse est la principale chose, la Bible en anglais. Acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes. Acquiert l'intelligence. Exalte la sagesse et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle tournera d'un magnifique diadème. Vous entendez? La sagesse donne la couronne aux gens. La couronne. Vous entendez? Proverbe 8, verset 12. Proverbe 8, verset 12. Proverbe 8, verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit encore? Moi, la sagesse, vous voyez, elle est personnifiée. J'ai pour demeure le discernement. Vous entendez? Je possède la science de la réflexion. Et la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Là où est la sagesse, il n'y a plus d'orgueil, il n'y a plus de haine. Non. Je vous ai dit, chrétien, là où est la sagesse, vous haïssez les gens, c'est parce que vous manque la sagesse. Si vous avez la sagesse, vous n'avez pas haï quelqu'un. Vous allez aimer les gens. L'amour, la sagesse sont ensemble. C'est dommage. C'est dommage. Regardez. Le conseil, verset 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent, vous entendez? Normalement, les rois doivent régner par la sagesse. En tout cas, les rois d'antan, les rois d'avant, là, régnaient par la sagesse. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouverne les chefs, les grands, tous les juifs de la terre. Oh, ouais, on fait appel aux grands. Si les grands pouvaient écouter ça, si les grands pouvaient entendre. Les grands, tous les juifs de la terre, les juges, vous entendez? C'est par la sagesse. Les dossiers seront traités correctement. Et j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchent me trouvent. Vous voyez bien? Ce n'est pas fini. Avec moi, la sagesse sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Oh, alléluia! La sagesse. La sagesse, vous la voyez? Dans Jacques 1, verset 5, il est dit que celui qui manque de sagesse la demande avec foi. Avant de terminer cette émission-là, la sagesse, vous pouvez la demander à Dieu et vous la donne. Salomon a demandé la sagesse, il l'a reçue. Si vous demandez la sagesse là où vous êtes, dans votre fauteuil, dans votre lit, je ne sais pas moi, là où vous êtes assis, si vous demandez la sagesse dans vos affaires, la sagesse dans votre ministère, la sagesse dans votre mandat, la sagesse dans votre travail, la sagesse pour votre famille. Dieu vous communique la sagesse et vous allez voir que les choses vont changer. Je prêchais dans un pays sur la sagesse. Je ne dis pas le nom du pays. Quand je prêchais, des gens sont venus, des grands et des intellectuels étaient assis. Il y a un particulier qui avait abandonné sa femme 15 ans. Parce qu'il trouvait peut-être que la femme était bête, ou elle n'était pas belle. Il l'avait abandonnée. Et la femme pleurait. Elle était dans l'angoisse. Quand j'ai enseigné pendant 3 jours sur la sagesse, au fur et à mesure que le Saint-Esprit communiquait la sagesse dans le cœur des gens, cet homme-là était convaincu du péché. Cet homme-là savait que ce qu'il a fait n'est pas bien. Parce qu'il lui a manqué la sagesse. C'était un homme qui était intellectuel. Mais il n'a pas la sagesse de Dieu. Et dès la fin du séminaire que j'ai tenu dans ce pays-là, il est parti voir sa femme qui souffrait, qui était abandonnée à elle-même. Demander pardon, se sont réconciliés. Il a repris sa femme. La sagesse manifeste partout. Là où il y a la sagesse, il y a des inventions. Là où il y a la sagesse, il y a des victoires. Là où il y a la sagesse, l'Église grandit. Pasteur, homme de Dieu, demandez la sagesse à Dieu. L'Esprit Saint qui est en vous est capable de vous communiquer la sagesse. Jeunes gens, demandez la sagesse. les plus grands inventeurs de ce monde-là, ce sont beaucoup des chrétiens. Vous savez bien, si vous regardez leur nom. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cette sagesse de Dieu en eux. Ils ont affecté le monde par la sagesse. Et vous aussi, vous pouvez affecter le monde, votre monde présent. Vous pouvez affecter votre monde par la sagesse. Si vous demandez la sagesse à Dieu, alors prions ensemble. Seigneur Dieu, nous avons besoin de la sagesse dans nos familles. Nous avons besoin de la famille, de la sagesse dans nos maisons, dans nos vies, dans notre travail, dans notre ministère. Nous avons besoin de la sagesse en tant que haut responsable, en tant que grand, en tant que roi, en tant que prince, princesse. Nous avons besoin de la sagesse dans nos nations, dans nos pays, pour diriger nos nations. Nous avons besoin de la sagesse dans nos gouvernements. C'est pourquoi nous te prions aujourd'hui que tu nous communiques ta sagesse qui va nous permettre de gérer nos vies, nos familles, nos nations dans la paix, dans la quiétude, avec discernement, avec intelligence et avec la connaissance, pour que nos peuples soient bénis, nos peuples prospèrent à tout point de vue. Père, nous avons besoin de cette sagesse-là. C'est au nom de Jésus que nous te demandons. Et nous croyons que tu nous donnes maintenant que ta grâce repose sur tous ceux qui ont suivi cette émission. Que tu les gardes, tu les guides, que tu leur donnes cette sagesse maintenant afin qu'ils opèrent dans une dimension surnaturelle, dans une dimension spirituelle qui va au-delà du naturel. Père, bénis-les pour cela et que ta grâce repose sur eux afin qu'ils réalisent, qu'ils sachent que Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Voulez-vous chanter? Voulez-vous chanter?